en dire des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est un livre qui ressemble à une ligne de crête, un récit qui chemine entre de longues et chirurgicales descriptions et des scènes d'action qui font brutalement accélérer le temps et qui claquent comme des coups de feu. Un roman entre contemplation et emballement, entre beauté immuable et violence inouïe. Le destin d'un homme à la croisée de deux mondes, l'ancien qui disparaît et le nouveau qui lui échappe. L'histoire d'un père aimant qui a tout misé sur ses enfants et qui ne les reconnaît plus. Une affaire de transmission, de puissance, d'argent, de pureté, mais aussi d'instinct, car c'est aussi une histoire de chasse à l'homme et de chasse à l'absolu. La Tentation de Luc Lang est publiée chez Stock et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Luc Lang.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors quand on referme votre livre, on est un peu sous le choc. Il faut de longues minutes pour reprendre le cours normal de son existence. C'est un livre qui reste d'ailleurs longtemps dans un coin de la tête. Et outre la violence de la dernière partie, ce qui reste aussi au lecteur, je crois, ce sont des images, des instantanés comme ça, qui s'inscrivent dans le feu de l'action et qui continuent de nous hanter. Et je voudrais commencer en parlant avec vous de quelques-unes de ces images. La première image, c'est celle qui ouvre votre roman, c'est l'image d'un animal magnifique, un cerf majestueux. Et puisqu'on parle d'image, vous allez nous le décrire peut-être, Luc Lang, ce cerf, qui n'est pas n'importe quel cerf d'ailleurs.
Oui, qui est un cerf à 16 corps, donc avec une coiffe magnifique et qui est en plus campé dans une flaque de neige, avec des couleurs d'automne, donc c'est un tableau.
C'est un tableau et le personnage qui est au milieu de ce tableau, c'est donc cet animal qui s'inscrit d'ailleurs sur le bandeau qu'il y a aussi autour du livre lorsqu'on le découvre en librairie. Comment est-ce que le cerf s'est imposé comme une sorte d'animal totémique de ce roman ?
Ben, je crois que c'est un animal totémique dans notre culture aussi, que ce soit par la mythologie ou que ce soit par la religion, si on pense aussi à Flaubert. C'est un animal qui exprime sans doute la pureté sauvage, et c'est un animal qui a un port magnifique, qui a une espèce de grâce immanente et de dignité extrême. Enfin, c'est pour nous sans doute l'image de la dignité et du retrait en même temps. C'est...
Parce que c'est un animal qui peut sembler très noble, c'est aussi un animal qui peut sembler farouche, et donc inaccessible pour l'être humain.
Oui, inaccessible dans sa pureté, et c'est pas un animal gesticulant, vous voyez. Donc c'est un animal qui exprime une grande noblesse, mais justement avec une espèce d'humilité ou de modestie, je ne sais comment le dire, même si tous ces termes évidemment sont des projections très humaines sur cet animal.
Bien sûr, une fragilité aussi peut-être, d'autant qu'on l'apprend dès la deuxième ligne du roman. Ce cerf, il est dans la ligne de mire d'un chasseur. C'est la deuxième image qui reste dans la tête du lecteur. La première image, c'est le cerf, lui tout seul, et la deuxième image, on a l'impression comme ça que la caméra ou l'appareil photo recule, que l'angle s'élargit. Cette fois, il y a donc le cerf et face à lui François, le chasseur. Pourquoi François aime-t-il la chasse, Luc Lang ?
Déjà, il s'appelle François parce que Saint François d'Assise. Donc, il y avait cette idée d'un prénom qui annonce quelque chose d'un rapport particulier aux animaux.
Alors, Saint François d'Assise, ce sont plus les oiseaux.
Ce sont plus les oiseaux, mais bon, c'est quand même... Il incarne, bon, il y a Saint-Hubert, évidemment, aussi, mais
Saint-Hubert
il incarne...
Saint-Hubert qui est le patron des chasseurs.
Voilà, le patron des chasseurs. Ce que je voulais, c'était évidemment installer un personnage qui soit à la fois chirurgien et chasseur, donc qui à la fois répare le corps des vivants et en même temps donne la mort. Et ce François, qui a une bonne cinquantaine d'années, donc arrive à un moment de sa vie où... la chasse qui pour lui relève d'une tradition familiale et relève aussi d'une culture particulière de la chasse, du grand gibier, avec tout un ensemble de codes, toute une nomenclature. Également un code de l'honneur qui est induit dans ce type de chasse, c'est-à-dire le respect du gibier, la manière aussi de le tuer, la manière de le, on dit pas dépecer, mais on dit défaire, je crois, pour le corps de cet animal quand on en transforme les pièces en pièces de boucherie. Enfin bref, il y a tout un vocabulaire et toute une histoire Et donc François, qui est pénétré de cet héritage à travers son père et son grand-père, se trouve à un moment de sa vie où tirer et immobiliser l'animal, comme il dit, en une flaque de mort, devient de plus en plus insupportable. Donc il est en train de basculer dans un autre rapport aux animaux, dans un autre rapport à la nature. Et c'est ce moment de basculement qui m'intéressait, évidemment.
Voilà, on est vraiment donc à une seconde décisive. Alors, est-ce qu'il va tirer? Ouais. Est-ce qu'il ne va pas tirer? Bon, finalement, il tire et l'animal s'enfuit. Il le pourchasse. Alors, le chasseur va suivre les traces de sang de l'animal à travers la montagne et va se retrouver sur une route départementale. Nous sommes page 16 de votre roman.
Le bruit d'un moteur creuse le silence quand, à 50 mètres, surgissant de la matière même du rocher, l'animal bondit, traverse l'asphalte dans un claquement de sabots qui sonne comme de la céramique. François n'a plus le temps d'épauler parce qu'il y a cette foutue BMW bleue débouchant du virage, qui roule si vite, moteur hurlant, le conducteur qui découvre la masse fauve et les bois immenses juste devant son capot, qui freine, donne un coup de volant, fait une embardée, le train arrière du grand coupé glissant vers le bas-côté, les roues mordant le gravier, puis l'herbe et la terre, des flaques de boue qui giclent, des feuilles d'automne qui s'envolent en une nuée de papillons frémissants. Le cerf est passé, il dégringole le fossé, disparaît sur la route. Il remarque deux personnes à l'avant de l'auto, un entrelac de tête et de bras que ballotte la violente embardée. Mais ce qui le bouleverse, c'est la chevelure et le profil trois quarts arrière de la passagère, une impression suffocante et confuse. Le conducteur, brun, des cheveux longs, une barbe de plusieurs jours, dont il n'a pu détailler les traits, a brutalement accéléré, parvenant à redresser le coupé qui s'est vite dissipé dans la courbe grise de la route. François s'avance avec l'hésitation d'un homme soudain vieilli. Ses semelles, comme engluées dans le goudron alors qu'il lui faudrait s'élancer à la suite de l'animal. Il reste figé au milieu de la route parce qu'il peut nommer l'image qui l'obsède et le pétrifie depuis une poignée de secondes. L'image d'un présent qui l'envelopperait toute son existence. Oui, ce mouvement du buste, de l'épaule, des cheveux, c'était Mathilde. Le soupçon dévorant que c'était elle, la passagère à l'avant du coupé. Avec une tension dans la nuque et le dos, une panique que le simple dérapage du véhicule ne peut seul expliquer. Il saisit son portable, sélectionne le prénom de sa fille, enclenche l'appel, mais ça ne capte toujours pas.
Mathilde, c'est donc la fille de François Luc Lang et son visage a l'air paniqué, on l'a compris, c'est la troisième image que le lecteur retient, c'est l'image qui arrive au personnage de François comme un éclair dans la nuit, comme un coup de tonnerre et qui va longtemps le hanter. C'est d'ailleurs cette image qui va tout déclencher et qui annonce la suite de votre narration. Je laisse le lecteur découvrir évidemment comment, mais je voudrais qu'on s'arrête un instant sur votre écriture, sur les mots qu'on vient d'entendre là à l'antenne de RFI, sur la façon finalement dont vous imprimez ces images dans l'esprit de vos lecteurs. Vous peignez à la fois à grands traits pour les décors grandioses hein, de Savoie, on est à l'ombre du massif de l'Iseran, et puis par toutes petites touches pour décrire les expressions des visages, les gestes, les actions de vos personnages. Est-ce que quand vous écrivez, Luc Lang, vous raisonnez en arrière-plan et en gros-plan, à deux niveaux?
Oui, et puis j'essaye de ne pas faire des descriptions, c'est-à-dire j'essaye de faire des perceptions, d'écrire des perceptions, de façon que la manière dont le paysage ou le décor vont se déployer devant le lecteur et la lectrice, ils vont s'y déployer comme des perceptions, c'est-à-dire comme si le lecteur ou la lectrice avançait dans le paysage. Et du coup, on n'est pas dans une immobilité où on contemple, mais on est dans une avancée et les choses se délivrent dans cette avancée-là. Ce qui, évidemment, a un effet, du moins c'est ce qu'on me confirme, c'est un effet d'imprégnation très fort où c'est nous-mêmes qui vivons le mouvement d'avancer dans le paysage.
Voilà, c'est comme quand dans un film, la caméra est vraiment très très près, tout voilà. De suite derrière le crâne du personnage. Je parlais donc d'arrière-plan et de premier plan, on parle beaucoup d'images depuis le début de cette émission. Est-ce que peindre et écrire, c'est la même chose, Luc Lang?
Pas tout à fait, parce que, en tout cas dans la réception, parce que la peinture, c'est une image immédiate et globale qu'ensuite on pénètre et sur laquelle on s'attarde. Mais l'écriture, c'est vraiment le déploiement d'un temps et la manière dont l'histoire se déplie au fur et à mesure. Donne à ressentir quelque chose qui ne va se délivrer que dans le temps, alors que avec le tableau, ça se délivre dans l'espace immédiatement, et donc on n'a pas le, on n'est pas dans le même mouvement. C'est pour moi là la corrélation à l'écriture, c'est vraiment la musique, parce que la musique, on ne peut pas l'anticiper non plus, hein, elle se déplie dans le temps, et ce n'est que dans la durée de l'écoute qu'on en a la perception.
Quelques notes du chœur d'entrée de La Passion selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, interprété par l'orchestre et le chœur Paul Kunz en direct dans VMDN sur RFI avec Luc Lang pour son nouveau roman La Tentation. Et cette musique, celle de Bach, Luc Lang, votre personnage principal, François, l'écoute souvent. Il a l'impression, dites-vous, qu'elle le construit.
Oui, François, je crois, n'est pas croyant, mais il est très transporté par cette musique sacrée.
Ça veut dire qu'on a besoin de sacré, même quand on est athée ?
Oui, sans aucun doute. On a besoin de ce que Kant appelait ce sentiment du sublime. Et je crois que dans le sacré, il y a quelque chose du sublime. Et il a besoin effectivement de cette musique pour connaître quelque chose comme la grâce, qui serait pour lui sans doute une grâce sans Dieu, mais une grâce tout de même.
Alors le livre s'appelle La Tentation, La Grâce, vous parliez tout à l'heure de Saint François, et donc Absolument. Des liens avec votre personnage François. Là on a écouté La Passion selon Saint Matthieu. Dans le livre il y a aussi référence à un tableau du Caravage, La Vocation de Saint Matthieu, tableau conservé à Rome à l'église Saint-Louis des Français. Absolument. Bon, Saint Matthieu, c'est évidemment un personnage majeur aussi du roman, ou plutôt Matthieu, parce que le fils de François s'appelle précisément Matthieu. J'imagine que c'est pas totalement un hasard s'il a un fils qui s'appelle ainsi.
Non, pas du tout. Ce n'est pas un hasard. Alors même que Matthieu, précisément, laisse ses charges de collecteur d'impôts pour suivre Jésus, son fils, lui, laisse son destin de médecin, puisque dans cette famille, depuis trois générations, on est non seulement chasseur, mais médecin. Et donc, il abandonne ses études de médecine, lui, pour non pas suivre Jésus, mais suivre l'argent et devenir trader à New York.
Voilà, donc c'est le banquier, le publicain du 21e siècle.
Voilà, c'est ça.
Et ça, François le ressent comme une trahison.
Comme une trahison, oui, absolument. François est sans doute, et sans aucun doute, un homme de l'ancien monde, enfin, du mien, si j'ose dire, en ce sens qu'il est cette pétrie de valeurs morales, celle de la transmission de ces valeurs n'est pas la moindre. Et devant la façon dont son fils non seulement quitte ses études de médecine, mais surtout devient banquier et fait une carrière d'ailleurs extrêmement brillante dans la banque, puisqu'il est rappelé à New York auprès d'une très grande banque, le désarme beaucoup, parce que son fils qui va venir dans ce relais le rejoindre,
ce relais de
chasse. Pour le voir dans ce relais de chasse, il voit très peu son fils,
ils ont des problèmes à communiquer,
va lui expliquer en fait quel est le nouveau monde. Et dans ce nouveau monde, François, d'une certaine façon, n'a plus sa place.
Alors, vous disiez à l'instant, Luc Lang, que l'argent, c'était la valeur du nouveau monde. C'est si juste que cela ? L'argent n'a pas toujours été, finalement, au cœur même du monde, y compris du nôtre ou du vôtre ?
Oui, bien entendu.
Qu'est-ce qui a changé dans le regard, dans le rôle que joue l'argent au sein de la société du 21e siècle, celle que dans laquelle François ne se sent pas si bien que cela ? Parce que les traders, la crise financière, ça date pas d'hier quand même. On
absolument.
Va pas remonter à 1929, mais
absolument,
tout de même.
Absolument. Simplement, l'argent est déconnecté du travail. C'est-à-dire ce que son fils explique à François, c'est qu'aujourd'hui, pour gagner de l'argent, il ne faut pas travailler, il faut faire de l'argent avec l'argent. Et précisément, la compétence et le métier qu'exerce François, savoir chirurgien, comme lui dit son fils, de toute façon, avec l'intelligence artificielle et la robotique, bientôt tes mains ne serviront plus à rien. Et donc, l'idée que le travail peut être rémunéré est une idée tout à fait dépassée. Ce n'est pas le travail qui va permettre de gagner de l'argent, c'est l'argent qui va permettre de faire de l'argent.
Donc il est difficile,
effectivement,
pour le père et le fils de se comprendre, de se parler. Ils vont essayer, hein, au cours du roman. Je laisse évidemment le lecteur découvrir comment ça va se passer. Et puis il y a aussi un autre dialogue qui est très compliqué. C'est le dialogue entre François et son épouse. Alors son épouse, c'est Maria. Alors Maria, elle est italienne. Alors contrairement à son mari, elle aime pas trop Bach. Elle préfère l'opéra, hein, ce qui peut-être un petit peu plus, on va dire, qui tombe sous le sens peut-être pour une italienne. Et c'est pourtant paradoxal parce que Bach, c'est quand même aussi la musique sacrée, c'est quand même une forme de mysticisme. Et Maria a un côté profondément mystique. Elle l'a même passé quelque temps au couvent.
Oui. Alors Maria s'est mise à avoir des crises mystiques, si on peut dire, avec des moments de silence et de recueillement où enfin elle passe son temps à écumer les couvents, les carmels, où elle passe de longs moments de retraite. Ça se déclenche au moment où le fils quitte la maison, hein. Donc elle a un rapport au fils extrêmement extrêmement passionnel, et quand le fils quitte la maison pour faire ses études de droit financier puis partir en Angleterre, elle se réfugie dans une espèce de quête mystique qui désarme beaucoup François, évidemment, parce que il garde avec elle un rapport amoureux et sensuel très fort, mais il est devant une femme qui le désarme beaucoup et une femme qui entretient un rapport à leur fille. Je ne vais pas
non,
ici
aussi.
Évidemment.
Mais c'est compliqué. Disons qu'il y a un souvenir, hein,
qui saille
très fortement,
oui.
qui saille et qui hante un peu comme un cauchemar. D'ailleurs,
voilà.
C'est un cauchemar. Voilà, et qui fait que François se pose énormément de questions sur la relation entre son épouse et sa fille.
Et sa fille. Et donc, ça marque et ça lèse beaucoup le rapport qu'il a à cette femme, qu'il continue d'aimer, mais avec laquelle il entretient un rapport à la fois de suspicion et d'incompréhension totale. Et donc, il est totalement déchiré, en fait, entre ce fils auquel il a le sentiment de ne rien pouvoir transmettre de ses valeurs, et puis cette épouse qui le désoriente totalement par ses frasques mystiques et cette adoration au fils qu'il finit par soupçonner d'être lié à une matrice religieuse qui est qui n'est rien moins que l'Immaculée Conception.
Oui, alors justement, il y a énormément de références christiques dans ce roman, de références sacrées. Le livre, je le répète, s'appelle La Tentation. Votre roman précédent, vous étiez venu nous en parler oui. D'ailleurs ici, s'appelait Au commencement du septième jour. Vous êtes obsédé par la Bible, Luc Lang, vous êtes obsédé par la parole sacrée. Vous êtes aussi un peu comme Maria, il y a un côté mystique en vous.
Peut-être pas, mais ce que je ressens beaucoup, et je vois par exemple en ce moment qu'on relit beaucoup Peggy, beaucoup de textes paraissent sur Peggy en ce moment. Et,
qui n'a pas et, toujours été à la mode, c'est le moins
qu'on
puisse
dire. Qui n'a pas toujours été à la mode, c'est le moins qu'on puisse dire. Et si vous voulez, il y a 20 ou 30 ans, par rapport à un modèle économique qui était le capitalisme, il y avait des contre-modèles, et avec des références politiques très précises, notamment marxistes. Et aujourd'hui, d'une certaine façon, le capitalisme est devenu universel. Et face à lui, les références qu'on peut lui opposer sont pratiquement inexistantes. Il n'y en a plus, même si le marxisme continue à être... Une capacité d'analyse de la situation économique, elle ne propose plus d'alternatives, puisqu'on a vu ce que ça donnait, les alternatives communistes en Europe, notamment, au XXe siècle. Et donc, n'ayant plus d'alternatives à proposer un modèle qui est devenu universel, qui aujourd'hui plus un capitalisme industriel, mais un capitalisme financier, d'une certaine façon, la seule chose qu'on peut encore opposer à cela, c'est probablement un ordre moral qui est marqué évidemment par nos cultures et notre culture religieuse.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec le romancier Luc Lang qui publie La Tentation aux éditions Stock. Alors votre héros, on l'a dit, c'est François. On a dit quelques mots de lui tout à l'heure. Donc on sait qu'il est chasseur, qu'il a un relais de chasse en Savoie. Il gagne très bien sa vie. Il est chirurgien orthopédiste à Lyon. C'est un grand bourgeois.
Oui, c'est un grand bourgeois. Et c'était important pour moi que ça ne soit pas un ouvrier en ce sens que... En fait, je voulais pas qu'on réduise le conflit de génération entre le père et les enfants. Je voulais pas qu'on le réduise à un conflit de génération. Mais je voulais qu'on montre que précisément, y compris pour un grand bourgeois qui est un bourgeois dominant dans le monde ancien. Très bien installé. Il a une clinique dans la banlieue lyonnaise. Il est chirurgien orthopédiste. Eh bien, lui aussi va disparaître. C'est-à-dire que c'est un monde tout entier qui disparaît. Et c'est pas seulement un conflit générationnel où il y aurait une espèce de promotion des enfants qui serait dans une promotion sociale face à un père qui serait un père modeste et ouvrier, enfin ou employé, je ne sais. Là, je voulais montrer que même ce grand bourgeois François est amené et a le tout à fait lui-même le sentiment qu'il est en train de conscientiser parfaitement à travers ses enfants qu'il va disparaître avec son monde.
Alors, on a parlé de Mathieu, on a laissé Mathilde un petit peu tranquille là pour quelques secondes parce qu'elle est toujours donc dans cette voiture avec
Absolument.
Cette image qui marque énormément son père. Il est vraiment fou d'inquiétude à François quand il a vu cette voiture, d'autant que sa fille ne répond pas à ses appels téléphoniques, mais il a toujours cette image de sa fille, l'air complètement terrifié comme ça à l'intérieur de cette voiture qui roule à tombeau ouvert comme on l'a entendu tout à l'heure. D'ailleurs, la voiture, si j'ose dire, c'est un vrai moteur de vos histoires, Luc Lang. Elle était aussi au cœur de votre précédent roman. Oui. Il y a beaucoup aussi de voitures dans ce roman-là. La voiture, c'est l'un des moteurs de l'histoire chez vous.
Oui, parce que notre condition, c'est d'être des êtres moteurs quand même. On est des êtres motorisés, on est des êtres mobiles. Enfin, l'obsession de la mobilité chez nous, elle est très très forte. Enfin, elle se marque à travers toute notre civilisation.
Mais il y a des écrivains de la marche, il y a des écrivains de la randonnée.
Oui, mais dans
le pèlerinage.
Dans le commencement du septième jour, il y avait beaucoup de marches aussi. Il y avait beaucoup de marches, que ce soit en Afrique ou que ce soit dans les Pyrénées. Là, il y a également de la marche, puisque François, quand il chasse, eh bien, il est à l'affût dans la forêt. Enfin, et donc, il marche beaucoup, mais on est en même temps des êtres moteurs. Et c'est vrai que ce qui est toujours... moi, ce qui me fascine toujours dans le fait d'être dans une voiture, c'est que, aussitôt que vous mettez de la musique, d'une certaine façon, comme dirait Gunther Anders, la radio et l'auto, ça marche ensemble. Hein. C'est-à-dire que la radio transfigure l'écran de la voiture, transfigure le pare-brise de la voiture en un écran de cinéma. Et donc, il y a là quelque chose, il y a un couple extrêmement dynamique dans notre condition d'être contemporain. Et voilà. Et là, simplement, le fait qu'il ait le sentiment que c'est sa fille qui est dans cette voiture, qui est une intuition, on verra s'il peut vérifier cette intuition plus tard dans le livre, mais je n'en dis rien, produit en lui une espèce de soudaine faiblesse, et sans doute que c'est là que les choses basculent pour lui, c'est-à-dire le sentiment que sa fille est en danger dans cette voiture va produire en lui ce geste tout à fait étrange, c'est que quand il va retrouver le cerf, puisqu'on sait que on ne laisse pas un animal blessé, il faut absolument l'achever, quand il va retrouver le cerf, au moment de l'achever précisément, il ne va pas le faire. C'est-à-dire il va le soigner et le réparer. Et sans doute que la vision de sa fille dans cette voiture qui est pour lui une image d'un seul coup de l'extrême fragilité de sa fille, devient la fragilité du cerf, et que dans cet acte, il le porte d'un seul coup à réparer ce cerf. Il y a sans doute la volonté de protéger sa fille. Enfin, quelque chose comme ça. Il y a une espèce de transfert qui se fait dans le sens que l'innocence de l'animal a quelque chose à voir avec l'innocence de l'enfance chez les humains. Et lui, sa fille a beau avoir 22 ans, pour lui, c'est quand même son enfant. Et le rapport qu'il a à son enfant devient le rapport qu'il a aux animaux.
Alors cet animal, ce cerf, il va effectivement le réparer, comme vous dites, mais ce cerf va finir par être achevé. On n'en dira pas dans quelles circonstances, oui. Mais je le précise parce qu'on va justement entendre un nouvel extrait de votre roman. Et cet extrait, je pense, est très intéressant parce qu'il est aussi symptomatique de la façon dont vous avez nourri votre roman par les mots, à travers deux champs lexicaux dans lesquels vous puisez abondamment, le champ lexical de la chasse et celui de la chirurgie, avec dans les deux cas des termes très techniques. Nous sommes page 107 de votre roman.
Il gagne la boucherie, ouvre, allume les néons, cherche dans les outils, récupère un bistouri dont la lame est presque neuve, un couteau de chasse, une petite scie circulaire, une rallonge électrique qu'il branche au tableau près des congélateurs, deux paires de gants en latex, un crayon de pastel gras, un mètre ruban, puis s'en retourne près de l'animal. Il chausse ses gants, déroule le mètre sur la fourrure à partir du pivot de l'andouiller de massacre jusqu'au bas de l'encolure. Il trace deux marques au pastel à 10 cm d'intervalle, qu'il relie d'un trait sur toute l'épaisseur de l'encolure. Saisit le bistouri, pratique une incise sous le garrot dans la fourrure et la peau, là où la chair est tendre. Il insère maintenant la lame du couteau et commence de trancher les tissus selon le tracé. Les muscles s'ouvrent comme des mangues sous le fil affûté. La trachée artère et l'œsophage résistent un peu. Il s'appuie plus fort et cisaille. Ça cède. La lame vient alors buter et crisser contre la colonne vertébrale. Il branche la scie circulaire, tranche les vertèbres. La moelle épinière se répand en une limpe jaunâtre. Peu de sang coule encore des jugulaires. Une odeur d'os et de viande se répand dans l'air froid. Il reprend le couteau et achève la coupe, veillant à ne pas déchirer la fourrure. C'est fait. La tête, son éloge des forêts et sa belle encolure sont détachés du corps. Il les tire sur la neige vierge, dans la lumière qui éblouit les dernières volutes de chaleur qui s'échappent de la viande découpée. François demeure, le couteau sanglant dans la main, qui dégoûte, immobile. À observer, il ne saurait dire au juste quoi. Debout, devant cette tête splendide, devenue trophée, dont il rêvait depuis 2 ans. Et ce corps décapité, c'est peut-être la nuit profonde, la voix lactée précise et scintillante, le froid qui en serre, la blancheur électrique des phares qui engorgent la neige. Ce serait le rituel nocturne d'un sacrifice, d'une offranda. Tu fais quoi ? Il sursaute, ne l'a pas entendu s'approcher. Ce n'est pas faute du vacarme de ses pas fracturant la neige. Un bruit de biscotte écrasée quand on prépare une chapelure.
Le clang, il faudrait qu'on s'arrête sur le rythme de votre écriture, on va en parler dans un instant, mais tout d'abord sur les mots, parce que vous écrivez, pour le coup, votre héros est chirurgien, mais vous aussi vous écrivez au scalpel, quoi, elle est d'une précision chirurgicale, on a l'impression que chacun de vos mots est pesé au trébuchet.
J'essaye, oui. J'essaye particulièrement en ce qui concerne les gestes et en ce qui concerne les métiers. Les gestes des métiers, parce que les gestes des métiers sont des gestes extrêmement élaborés, sophistiqués. Les gestes portent des noms, les outils portent des noms. Et à cause sans doute d'un très grand respect que je peux avoir pour les métiers, il me semble important de bien nommer les choses. Hein. On dit que si on nomme mal les choses, on sème le malheur. Entre les êtres. Et mon respect des métiers me force à essayer, tant faire se peut, de toujours bien nommer les choses. Là, on a affaire à un chirurgien, donc il a un vocabulaire extrêmement précis, il a un ensemble d'outils extrêmement précis. Pour la chasse, c'est la même chose. Et donc, j'essaye sans... Alors évidemment, c'est la question même du roman, c'est-à-dire on n'est pas en train de faire un précis de vocabulaire pour devenir chirurgien ou pour devenir chasseur. Donc il s'agit à la fois d'être très fluide, d'être très évident dans l'usage qu'on fait des mots, comme si c'était des mots qui nous étaient familiers. Donc il faut pas trop surcharger en vocabulaire et en jargon, mais en même temps essayer de nommer les choses en les rendant parfaitement perceptibles immédiatement, y compris pour quelqu'un qui n'est pas ni chirurgien ni chasseur.
Mais là, quand vous décrivez les gestes de François, et il y a un peu deux scènes miroirs dans le roman. Il y a cette scène-ci, et puis il y a une scène qui fait plus référence cette fois-ci au chirurgien.
Oui.
Et on se demande quand on vous écoute et quand on vous lit, Luc Lang, parfois on se demande si c'est là le chirurgien qui est en train de découper un animal mort, ou si c'est le chasseur qui est en train de soigner un blessé. Les choses se mélangent aussi, se confondent de temps à autre.
Oui, vous avez raison. C'est absolument. J'ai voulu absolument que ça se contamine parce que il fallait que la manière dont le chasseur respecte le gibier et respecte l'animal, il fallait que ça se mesure dans la manière dont il réinvestit ses gestes de chirurgien dans son travail de chasseur. De manière à avoir un rapport au corps, qu'il soit animal ou humain, que ce soit un rapport extrêmement compétent et respectueux de la meilleure façon qu'il soit.
À propos de chirurgie, Luc Lang, quelques mots justement sur le découpage de votre roman. Parce qu'il y a des ellipses, il y a des flashbacks, il y a des retours en arrière. Donc, parfois même, vous racontez deux fois le même événement, mais en changeant la focale, en le racontant avec un angle différent. Ce découpage-là, il vous est venu au fil de la plume, au fil de l'histoire, où il y a une forme de, je sais pas, de phase de montage à la fin, un petit peu comme un réalisateur de cinéma.
Non, ça m'est venu au fil de l'avancée du livre, c'est-à-dire que en fait, ce qui m'est apparu comme étant le projet du livre, mais c'est souvent après coup que ça m'apparaît, c'était de montrer comment la manière dont les souvenirs d'un même événement reviennent en mémoire, qui sont toujours convoqués par une situation du présent, mais qui est différente, et qui fait que le souvenir remonte en nous, mais de manière également différente, puisque c'est pas le même présent qui le fait revenir en nous, ou des fois c'est même nos enfants qui nous rappellent un souvenir commun, mais ils nous le rappellent avec un éclairage qui n'a tellement plus rien à voir avec celui que nous avions gardé nous. J'ai voulu donc qu'on puisse réexplorer cette épaisseur du temps. Mais en réexplorant cette épaisseur du temps, il y a d'autres éléments qui apparaissent et qui en font d'une certaine façon une trame sur le mode presque d'une enquête, puisque revisitant un souvenir, évidemment, vous le revisitez sous d'autres facettes et donc il y a des nouvelles choses qui surgissent et qui permettent de mieux peut-être expliquer le temps qui s'est passé, qui s'est déposé là entre les différents protagonistes.
Alors, pour continuer dans la métaphore de la découpe, qu'elle soit celle du chirurgien ou celle du chasseur, il faudrait qu'on découpe un tout petit peu votre écriture aussi, parce qu'il y a quelques petites questions comme ça qui me sont venues à l'esprit en vous lisant. Par exemple, vous citez énormément, on parlait de voitures tout à l'heure, vous citez les marques de voitures. Il y a beaucoup de marques d'ailleurs, les téléphones portables, les fusils de chasse, les produits médicaux aussi par exemple. Pourquoi c'est si important que ça de citer les marques ?
Mais parce que on vit dans un univers de marques. C'est quand même étonnant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit plus qu'on a un pantalon en velours côtelé ou qu'on a un pantalon à pinces ou un pantalon droit ou en fait on dit j'ai un telle marque et c'est très frappant chez les nouvelles générations, c'est-à-dire que en fait on se définit par un certain usage des marques. Alors on n'a pas un portable, un smartphone, mais on a un iPhone, un Samsung, ce que vous voulez, un LG, enfin bref. Et donc je trouve que c'est une façon assez régressif de percevoir la réalité des objets que de les désigner par des marques, parce que la marque c'est que du symbolique, c'est pas du tout, ça désigne en rien la réalité de l'objet, et donc du coup ça me semble important de manifester ce symptôme très contemporain de notre manière de se repérer dans les objets par des marques, en utilisant évidemment dans le roman, qui est un roman contemporain, un repérage par les marques.
Voilà pour les mots, la rythmique précisément, la rythmique de la phrase, ça aussi ça doit être aussi une forme, je ne sais pas si c'est naturel ou si c'est une obsession quand vous écrivez. Par exemple, vous répétez souvent le sujet, donc il y a François et ensuite il y a « il fait ci », il fait ça, oui, etc. Ça donne tout de suite une forme de rythmique, une forme d'emballement comme ça au récit. C'est une obsession justement cette dimension rythmique, parce que vos phrases elles sont plutôt longues, oui, et en même temps il y a tellement de virgules qu'on a l'impression que ce sont uniquement des phrases courtes.
Oui, alors ça c'est la... En fait, j'envie tout le temps le cinéaste. C'est-à-dire qu'un cinéaste, en fait, il peut faire un film à pratiquement sans un mot. C'est impressionnant. Il y a des films où vous avez plusieurs minutes sans un mot. Il suffit que vous voyez le personnage agir. Et dans l'écriture, vous êtes tout le temps obligé d'écrire des mots. Il y a plein de mots. C'est encombré de mots. Et évidemment, puisqu'on a que ces mots, on a que les mots pour faire surgir les images. Et ce qui m'intéresserait, en fait, c'est d'arriver à coller tellement à ce que fait le personnage qu'il n'y aurait aucun mot. C'est-à-dire que, mais évidemment, je n'ai que les mots pour dire ça. Donc, j'essaye de coller au maximum aux gestes. Et donc, je nomme les gestes. Je nomme les gestes du personnage pour ne pas avoir à parler. En fait, j'essaye de faire des romans qui soient absolument muets. C'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est paradoxal, évidemment.
Complètement.
Mais je rêve d'être avec une caméra plutôt que d'être avec un stylo. Et j'essaye de suivre les gestes de mes personnes sans jamais parler, quoi.
Alors justement, on en revient aux images. On a commencé par les images. Vous revenez effectivement directement aux images, Luc Lang. Et puis aussi l'image qu'on peut avoir juste en ouvrant le livre un peu à n'importe quelle page, parce que vous avez un texte qui est très massif, très compact, avec très très peu de renvois à la ligne, sauf évidemment pour les dialogues. Quand là, vous passez à la ligne pour les dialogues. Mais pour les dialogues, vous n'utilisez ni les tirets, ni les guillemets, ni les incises. Vous dites pas le personnage dit-il, répond-il, acquiesce-t-il. Non, jamais. On est au cordeau dans les dialogues.
Oui, parce que le dialogue, ça surgit. Hein, si on est à table et vous me dites « passe-moi le sel », vous n'avez pas besoin de dire « dis Jean-François ». Donc, je sais très bien qui m'a demandé « passe-moi le sel » et je sais très bien où est le sel sur la table. Donc, c'est un peu ça, si vous voulez. On est deux personnes qui marchons dans la rue. L'un d'entre eux d'un seul coup va briser le silence en parlant à l'autre. On va pas avoir besoin de signaler qui parle et qui écoute. Et donc j'ai envie de ce surgissement de la parole, il soit de la même nature dans le livre. Et je trouve que toute la signalétique des dialogues, c'est un peu comme des panneaux sur le bord de la route. Plus il y a de panneaux sur le bord de la route, moins vous arrivez à conduire. Et donc, c'est un peu la même chose. Si vous supprimez les signalétiques, vous créez une espèce de liberté de vitesse qui est infiniment plus grande. Et j'essaye que ce surgissement de la parole, parce que finalement, ce qui est dit dans la parole qui est dite, permet de comprendre parfaitement qui parle et permet parfaitement de comprendre qui écoute. Et donc, il n'y a pas besoin de dire « dit-il » ou « dit François » ou « s'exclama François », parce que rien que le ton qui est mis dans la manière dont s'articulent les mots, on comprend si c'est exclamatif, si c'est interrogatif. Vous voyez, si c'est tendu, si c'est au contraire paisible. Et donc, il faut absolument qu'à l'intérieur des mots, on entende les sons, on entende la tonalité de la phrase et on comprenne immédiatement qui parle.
Thank you. Just Believe in Spring sur RFI, un morceau. Là aussi, il y a Hubac tout à l'heure. Il y a aussi Bill Evans hein, et son piano que François écoute à plusieurs reprises, notamment en présence de son fils Mathieu. Pour vous, Luc Lang, quelle est l'atmosphère qui se dégage de ce morceau?
C'est de grande tendresse et de grande mélancolie. Hein, you must believe in spring. Hein.
Vous devez, tu dois croire au printemps.
Tu dois croire au printemps. Hein. C'est une espèce d'injonction. Et cette injonction marque aussi peut-être le fait que le printemps n'est pas là.
Cet homme qui s'appelle donc François, qui est votre héros, il aime la montagne. Il aime aussi son chien, les chiens de chasse. Il en a perdu un. Hein, on l'apprend au début du roman. Et puis il va finir par en reprendre un autre. La nature. Les animaux, finalement, sont plus en symbiose avec lui que sa propre famille, plus que ses propres enfants.
Oui, c'est
au moins, eux, ils sont fidèles. Les chiens et le monde.
Oui, c'est une espèce de refuge, cette façon de se retirer dans ce relais. Avec, pour lui, hein, comme on disait au début de notre rencontre, un sentiment de bascule qui s'effectue en lui, où il va se diriger vers quelque chose qui est plus une tentative de cohabitation qu'un lieu pour chasser le gibier.
Est-ce que l'amour paternel est voué à être déçu, Luc Lang? C'est la question que je me suis posée en refermant votre livre.
C'est une très bonne question. Moi qui ai donc des enfants qui sont en train de devenir des adultes, je crois pas que la déception est consubstantielle au rapport entre parents et enfants. Il y a juste quelque chose qui se produit, qui est le fait que d'un seul coup, un enfant devient un adulte. Et en fait, le passage de l'un à l'autre est très mystérieux. Hein. C'est un peu comme une chrysalide. D'un seul coup, c'est un papillon. Et on sait pas comment... Il y a une alchimie qui s'est produite. Et d'un seul coup, on se retrouve devant un adulte. Et cet adulte, évidemment, il est devant un horizon qui se déploie devant lui. Et nous, on n'est pas dans l'horizon en tant que parents. On est derrière. Hein, on est dans son dos. C'est-à-dire, en fait, on voit plus l'enfant de face, mais on voit l'adulte de dos. Et il y a quelque chose là, comme une expérience assez douloureuse, je dois dire, d'un vide qui s'installe autour des parents. Et ce vide-là, qui est quand même une douleur, il faut bien l'avouer, même si on est heureux de voir ses enfants s'avancer vers l'horizon qui est le leur, enfin qui est en train de se construire, ça a été l'une des énergies et l'un des combustibles du livre. Alors évidemment, après moi j'ai poussé ça dans quelque chose qui était une impossible transmission, une trahison entre des générations, qui était en même temps un nouveau monde qui faisait disparaître un ancien monde. C'est-à-dire que j'en ai ensuite fait une histoire à la fois familiale et à la fois sociale, qui est celle de notre monde d'aujourd'hui. Mais au départ, sans doute que l'énergie et le combustible, si vous voulez, du roman, c'est effectivement les enfants qui deviennent des adultes et qui s'en vont, quoi.
Merci beaucoup, Luc Lang. La tentation est parue, je le rappelle, fait stock, un livre que vous pouvez, vous qui nous écoutez, gagner en répondant à la question du jour par message privé et uniquement par message privé à partir de la page Facebook de l'émission. La question, elle est assez simple. Hein. Quel est le métier de François, le héros du livre de Luc Lang? Quelle est sa spécialité, pour être plus précis? Quelle est la spécialité? Quel est le métier de François? Deux exemplaires du livre sont à gagner et félicitations à nos gagnants d'hier, dont les noms figurent d'ores et déjà sur la page Facebook de l'émission.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
On parlait de la société contemporaine et du rôle de l'argent il y a quelques instants. Eh bien, figurez-vous que la Banque d'Angleterre vient de fêter ses 325 ans cet été. Elle est évidemment beaucoup sollicitée en cette turbulente période de Brexit, mais elle est au cœur de la vie économique nationale depuis 1694. Dans ses locaux du quartier de la City à Londres, une exposition sobrement intitulée 325 ans, 325 objets met en valeur l'histoire de cette institution en charge de la stabilité de la livre sterling et donc un peu d'un pays qui est lui aussi sur la ligne de Crète. Marie Billon l'a visité pour nous.
Un lingot d'or, c'est lourd et les visiteurs peuvent le vérifier par eux-mêmes. Un mécanisme permet d'en soulever un. Impossible de s'évader avec, par contre, il faut passer la main à travers un trou coupé dans une solide vitrine. La Banque d'Angleterre n'a pas remplacé tous ses lingots par de la monnaie virtuelle, mais juste à côté, on trouve des billets de banque, dont le plus vieux date de 1702, et un iPhone. Une manière d'illustrer à quel point l'argent a physiquement changé en plus de 300 ans. Dans cette exposition, la banque explique qu'elle a accompagné témoigner, mais aussi montrer la voie à certaines évolutions sociétales, comme le travail des femmes, par exemple. Miranda Garrett est en charge des collections du musée.
Sur un de nos billets, il y a le marquage en filigrane effectué par Mary Smith, l'une des premières employées féminines de l'établissement. Nous avons aussi un livre écrit par Janet Hogarth, qui a été la première directrice des commis femmes à partir de 1694.
Il y a le visage en filigrane de la reine dans chacune des pétales de fleurs, ce que je n'avais pas remarqué avant d'avoir terminé.
C'est l'artiste Justin Smith qui présente ici l'objet le plus récent de l'exposition, un bouquet de fleurs sauvages, fait avec des fils de fer pour les tiges, mais surtout avec une soixantaine de billets de 50 livres, une œuvre d'art confectionnée exprès pour cet anniversaire.
Pour moi, le billet de banque représente le pouvoir, l'histoire, la culture. On apprend beaucoup sur une nation en regardant ces billets de banque. Mais je les utilise surtout parce que tout le monde a un lien avec l'argent, car tout le monde travaille pour en avoir.
Normalement, Justin achète les billets de banque destinés à ses créations. Cette fois, la Bank of England les lui a prêtés. Elle a reçu chacun dans une enveloppe plastique et a dû signer une décharge à chaque fois. Car ce sont des billets qui, soit n'ont jamais été mis en circulation, soit ont été retirés à titre individuel. Ils pourraient donc être utilisés dans les magasins sans que les commerçants ne s'en rendent compte tout de suite. Mais ce serait de la fraude. Et en parlant de fraude, l'exposition montre aussi un faux billet datant du 19e siècle que ses propriétaires ont tenté d'échanger deux fois. Sans succès, explique Jenny Adams, conservatrice du musée.
Quand la banque voyait un billet forgé, ils le tamponnaient et le rendaient à la personne. Mais dans ce cas-là, ça a fait que 40 ans après le premier essai, dans les années 1890, quelqu'un est revenu pour tenter d'échanger son billet. La personne avait simplement gratté l'encre du tampon, mais elle est encore clairement visible. Ça devait être quelqu'un de désespéré pour tenter ça.
La Banque d'Angleterre veut montrer dans cette exposition qu'elle est plus qu'une banque, qu'elle est inscrite dans la vie culturelle du pays. Et son surnom en est la preuve. The Old Lady of Thread Needle Street. Thread Needle Street, c'est tout simplement le nom de la rue où a été construit le bâtiment. Le sobriquet, lui, provient d'une caricature publiée en 1797.
On y voit la banque représentée par une vieille femme habillée d'une robe faite de billets. Elle est enlacée par le premier ministre de l'époque, William Pitt, le jeune, qui fait semblant d'être son ami, mais qui en fait lui fait les poches pour lui voler son or. Mais le gouvernement voulait toujours emprunter de l'or. L'opposition politique estimait que la banque était une pauvre vieille femme mal entourée.
Comme si la banque voulait rappeler qu'elle n'est pas qu'une institution et un bâtiment austère, elle expose aussi quelques tirelires en forme de cochon, à côté de petits soldats rouges en bois. Ils représentent la garde qui protégeait The Old Lady avant. Aujourd'hui, la sécurité est devenue presque aussi invisible que la monnaie utilisée pour les paiements.
Reportage de Marie Billon à Londres pour VMDN, une exposition à visiter jusqu'en mai 2020. Vous avez un petit peu de temps si vous passez par la capitale britannique. À demain avec le violon à l'honneur d'un autre roman de la rentrée, sans doute un des plus émouvants, Âme brisée, du japonais Akira Mizubayashi, écrit en français et publié chez Gallimard. Avec nous également le luthier Alain Carbonaret et le violoniste Shuichui Okada. Tout de suite le journal sur RFI, à demain, vous m'en direz des nouvelles.